Le débat du jour, Gaëtan Plenet.
Et bonsoir à tous, merci d'être fidèles à RFI. Il y a près de deux semaines maintenant, la France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants qui se trouvaient dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Ces camps contrôlés par les forces kurdes. Début juillet déjà, 16 mères et 35 mineurs avaient eux aussi pris un avion pour la France. La France qui a longtemps rechigné avant de procéder à ces rapatriements, au point de se faire épingler d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui semble donc maintenant un petit peu plus disposée à faire rentrer ses ressortissants. Et une fois rentrés, justement, qu'est-ce qui les attend ? Quelle prise en charge pour les femmes de djihadistes et leurs enfants ? C'est le débat du jour sur RFI. Et pour en parler, trois invités avec moi. Bonsoir Marie Dosé.
Bonsoir.
Avocate au barreau de Paris, avocate du collectif Famille Unie qui rassemble les proches et les familles des femmes et enfants retenus en Syrie. Vous défendez notamment plusieurs de ces femmes rapatriées, ces enfants et ces familles. Merci d'être avec nous et merci aussi à vous Sophie Parmentier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et journaliste à France Inter, co-réalisatrice avec Hélène Lamtrang du documentaire Daesh, les enfants du soupçon qui a été diffusé en janvier 2020 et qui le sera à nouveau dans quelques jours le 19 novembre sur LCP. Et bonsoir à vous Serge Affez. Au téléphone avec nous, psychiatre et psychanalyste. Vous avez notamment accompagné le suivi de ces enfants qui ont donc été rapatriés en France. On va évidemment avoir l'occasion d'en reparler, mais d'abord je me tourne vers vous, Sophie Parmentier. Comment la politique de Paris vis-à-vis de ces ressortissants rapatriés donc a-t-elle évolué ces dernières années, notamment depuis que vous avez réalisé ce documentaire ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est important de dire que la politique pénale, de répression pénale, n'a pas toujours été la même vis-à-vis des femmes parties en Syrie ou en Irak rejoindre le califat de Daesh, et donc leurs enfants. En 2014, par exemple, il y avait des mères qui rentraient avec leurs enfants, qui n'étaient pas automatiquement placées en garde à vue, mises en examen, et pas systématiquement séparées de leurs enfants. Les choses ont changé en 2016. Il y a eu, vous le savez, le projet d'attentat contre Notre-Dame de Paris, projet perpétré par des femmes. Et donc, toutes les femmes parties en Syrie ou en Irak sont devenues suspectes. Et à partir de 2016, la politique est devenue beaucoup plus répressive. Et donc, toutes les femmes de retour sur le sol français étaient mises en examen pour terrorisme et séparées automatiquement de leurs enfants qui, eux, étaient placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. Après, il y a une autre chose importante, je pense, qu'il faut dire pour expliquer la politique de la France, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la politique du cas par cas. Mais il faut savoir qu'il y a deux chemins de retour du califat de Daesh. Il y a les djihadistes qui sont partis et qui ont décidé de rentrer, de fuir le califat dès les années 2013-2014, plutôt, puisque le califat, c'est à partir de juin 2014, et qui sont passés par la Turquie. Tous ceux qui ont été arrêtés à la frontière turque depuis 2014, grâce à des accords de Bernard Cazeneuve entre la France et la Turquie, tous ces djihadistes, femmes, hommes et leurs enfants, sont rentrés automatiquement en France. Et donc là, on ne parle pas de rapatriement, mais donc ils sont rentrés régulièrement depuis 2014 et jusqu'à très récemment encore. Ensuite, il y a cette histoire de rapatriement, et donc là, on ne parle que des camps du Kurdistan syrien, camps de prisonniers, comme vous l'avez dit, mais il n'y a que des femmes, en fait, dans ces camps et leurs enfants. Les hommes sont incarcérés dans des prisons en Syrie, d'autres ont été transférés en Irak, et donc cette politique du rapatriement, c'est-à-dire que la France qui choisit d'envoyer un avion militaire pour aller chercher des enfants, la première fois, c'est en mars 2019. Au compte-gouttes, la France va chercher 5 enfants, 3 frères orphelins et puis 2 autres enfants, 2 petites filles. Et puis ensuite, au cas par cas, il y a comme ça, en mars 2019, donc la première fois, ensuite en juin 2019, et ensuite, quelques fois, une trentaine d'enfants, en fait, qui sont rapatriés au compte-gouttes. Et pour la première fois, en 2022, à l'été 2022, en juillet, la France décide d'aller chercher aussi des mères avec leurs enfants. Il y a eu alors une quinzaine de mères rentrées avec 35 enfants et puis le 20 octobre dernier, une quinzaine de femmes encore et 40 enfants que la France choisit d'aller chercher. Alors, on dit que le cas par cas n'est plus le cas par cas puisque le gouvernement affiche sa volonté de rapatrier tout le monde, ça a été dit par plusieurs membres du gouvernement, par exemple Charlotte Kobel, mais en réalité, il y a encore plus de 150 enfants qui sont dans le camp de Roge, avec une soixantaine de femmes, qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi d'autres sont partis. Et donc, la politique du cas par cas, même si elle a été infléchie, on peut dire, ces derniers mois, elle demeure.
Vous êtes d'accord, Marie Dosé, la politique du cas par cas a quand même été, si ce n'est abandonnée, en tout cas remise en question par le gouvernement ? par les autorités françaises.
Non, mais ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que l'ancien coordonnateur, Laurent Nunez, de la lutte contre le terrorisme, avait tenté ces derniers mois de justifier la politique du cas par cas pour ensuite officiellement et explicitement l'abandonner en disant nous sommes en train de faire le choix de la responsabilité et nous allons rapatrier tous ces enfants et leurs mères. Mais la France, de toute façon, a été acculée à le faire. Il faut quand même pas oublier qu'elle a été condamnée en février dernier par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies pour violation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et puis, vous l'avez rappelé, par la Cour européenne des droits de l'homme, avec un arrêt assez cinglant qui évoque la notion d'arbitraire, avec une Cour européenne qui demande à la France de revoir sa copie et qui lui donne un délai pour le faire. C'est un arrêt qui concerne tous les enfants, pas seulement les requérants. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la France sait très bien qu'elle doit rapatrier. Et elle le sait depuis 2019. Et n'oublions pas qu'en 2019, avant cette petite musique du cas par cas, le rapatriement de tous ces enfants, de toutes ces mères et de tous ces pères, de tous ces hommes, était prévu et organisé. Et que pour des raisons purement politiciennes, on a attendu la réélection du président de la République en 2022 pour faire le choix de la responsabilité de l'humanité. Mais n'oublions jamais une chose. C'est que ces enfants, ils sont dans ces camps depuis 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans. Certains, ils sont nés. Le problème, c'est que 4, 5 ans, c'est le temps d'une enfance. Et que c'est un immense gâchis. Et que moi, pour être en contact avec les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, de la PJJ, qui rencontre ces enfants, j'ai cette certitude avec eux que les camps leur ont fait énormément de mal. Et que là, c'est pas Daesh ou le choix des parents, c'est le choix d'une France qui les a laissés pourrir pendant des années dans ce lieu où la violence est bien irène. Voilà.
Serge Effès, j'imagine que vous partagez ce point de vue. La France a trop traîné à rapatrier ses enfants.
Trop traîné, c'est un euphémisme. Moi, je parlerais d'une maltraitance d'État vis-à-vis de ces enfants. C'est des enfants qui ont été inutilement massacrés. Psychologiquement, psychiquement et même physiquement pour certains qui ont développé des maladies graves qu'ils n'auraient pas dû développer s'ils avaient été répatriés. Mais vous parler de mon expérience par rapport à ces enfants, moi j'ai connu pas mal d'enfants qui sont rentrés, comme en parlait Sophie Parmentier tout à l'heure, en 2017-2018, début 2018. À ce moment-là, le juge des enfants qui s'occupe de ces enfants demande à mon équipe d'expertiser un certain nombre de ces enfants, peut-être une quinzaine, pour voir dans quel état psychologique ils sont et pour donner un certain nombre de préconisations. Donc ces enfants, je les ai bien connus et surtout j'ai connu leur évolution puisque avec mes contacts avec l'aide sociale à l'enfance, j'ai pu voir depuis un certain nombre d'années comment ils vont. Ces enfants vont très bien. Ces enfants qui ont été rapatriés en 2018 vont extrêmement bien sur le plan psychologique, tous. Tous ceux qui ont été rapatriés, ils ont réintégré l'école, ils ont réintégré leur famille, ils ont réintégré des liens sociaux, des liens amicaux et des liens affectifs normaux. C'est des enfants qui avaient vécu des traumatismes de guerre, mais qui n'avaient pas vécu les traumatismes de l'enfermement, ce que vivent et ce qu'ont vécu les enfants qui sont restés et qui ont passé inutilement 3-4 ans dans les camps. Et alors ces enfants, je ne les connais pas encore, j'en ai connu un la semaine dernière qui a été hospitalisé dans le service où je travaille. J'en entends parler et tous les professionnels sont d'accord pour dire que ces enfants, ils vont beaucoup plus mal et ils sont beaucoup plus abîmés que les enfants qu'on a connus lors des premiers retours.
Marie Dezé, vous vouliez réagir à ce que disait Serge Effès, hein ?
Oui, mais parce que Serge Effès a raison de le rappeler, mais les trois quarts des enfants qui sont dans ces camps ou qui viennent d'être rapatriés ont connu Barouz. Ils ont connu la chute de Barouz, donc ça c'était extrêmement traumatique. Et n'oublions pas qu'ils sont arrivés dans les camps sans qu'aucune prise en charge psychologique ne soit mise en place. Nous on a essayé, des avocats, des médecins, et Serge Effès en faisait partie d'ailleurs, au moins de mener à bien une mission dans ces camps pour essayer de rencontrer ces enfants, de procéder à leur évaluation. On avait prévu de partir, mais la France nous a toujours empêchés d'accéder à ces camps, les avocats, les humanitaires et les pédopsychiatres. Donc ce sont des enfants qui ont vécu le pire, puisqu'ils ont vécu Barouz, en tout cas pour la grande partie d'entre eux, qui sont dans des camps où soit il ne se passe rien, soit la violence règne, et la France a fait le choix de les y laisser. Donc elle est là la violence institutionnelle, elle est là la violence d'État dont Serge Effès parle à juste titre. Mais n'oublions pas la force de résilience des enfants, et Serge Effès en parle mieux que moi, une petite fille qui a été rapatriée il n'y a pas si longtemps, qui a connu Barouz, Et elle a vraiment vécu le pire là-bas. Elle est aujourd'hui première de sa classe. Je la cite toujours parce que malgré le choix du pire qui a été le choix de la France, malgré ce que cette petite fille a pu vivre, mais de violent, d'extrêmement violent, à Barouz, elle est aujourd'hui première de sa classe. Donc évidemment qu'il ne faut surtout pas désespérer, mais quel immense gâchis.
Mais alors, effectivement, Sophie Parmentier évoquait tout à l'heure ces enfants qui se demandent pourquoi eux n'ont pas eu encore l'autorisation de rentrer. Est-ce que, Marie Dosé, on connaît aujourd'hui les critères que la France impose pour choisir qui va revenir, qui ne va pas revenir ?
Non, et c'est justement pour cela qu'elle a été condamnée par la Cour européenne. Elle a fait le choix de l'arbitraire. Et ce que lui dit la Cour européenne, c'est « ça suffit, le fait du prince ». Vous arrêtez de sélectionner, de trier les enfants dans les camps, ceux que vous ramenez et ceux que vous laissez pourrir. C'est pour ça aussi qu'elle est obligée de rapatrier tout le monde. Mais ces choix, ce choix de l'arbitraire, était fondé sur des critères absolument opaques. Et moi, j'échange avec les autorités. Je transmets des demandes de rapatriement depuis 4 ans. J'écris chaque semaine, attention, cet enfant est malade, attention, cet enfant souffre, attention, cette mère va mourir. À 42 reprises, j'ai demandé le rapatriement sanitaire d'une femme en terminant mes demandes de rapatriement sanitaire par attention, elle va mourir, elle est morte, devant une petite fille qui a vu sa mère agoniser pendant 3 ans. Et on a mis 7 mois à rapatrier cette gamine qui est aujourd'hui en France. Vous imaginez l'histoire de France de cette petite fille ? Donc voilà, c'est tout ça que la France a malmené. En réalité, elle a vraiment fait le choix de l'inhumanité et ce sont ses enfants qui en sont victimes.
Et alors, vous voulez réagir, Sophie, je vous en prie.
Non, je voulais juste ajouter, c'est vrai que les critères paraissent assez incompréhensibles et je voulais revenir sur le premier rapatriement par la France, je vous disais, en mars 2019, avec 5 enfants qu'on va chercher. À ce moment-là, le Quai d'Orsay, dans un communiqué, j'ai quelques mots sous les yeux, dit « nous sommes allés chercher des enfants dans une situation très vulnérable, sans protection immédiate, sans parents. » Et ils ont beaucoup insisté sur ce terme d'enfants très vulnérables. Mmh. Ce à quoi les familles du collectif Famille Unie notamment répondaient « mais enfin, tous les enfants sont vulnérables. » C'est-à-dire que quand on voit la situation du camp, il faut rappeler que ce camp de Roche, car maintenant tous les Français sont dans ce camp de Roche, il n'y en a plus quasiment à Al-Hol, en fait, c'est dans le désert, avec des odeurs de pétrole, de la poussière, il fait extrêmement chaud l'été, il fait extrêmement froid l'hiver, les enfants sont sous des tentes, ils sont dans la boue quand il pleut, ils vont mal en fait ces enfants. Et donc ils sont tous vulnérables bien sûr dans ces conditions. Et donc c'est vrai que, en tout cas ce qu'affichait le gouvernement politiquement, c'était qu'on allait chercher au départ des orphelins, des enfants vulnérables, même si dans le premier rapatriement il y avait aussi 2 autres petites filles. 3 mois plus tard, il y a eu encore des orphelins, il y a quelques jours encore, il y avait des orphelins parmi les 40 enfants qui sont rentrés, mais il en reste là-bas. Des orphelins. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les familles, les avocats comme Marie Dosé, ont beaucoup de mal à comprendre. Enfin, c'est assez incompréhensible.
Alors Serge Effet, ces enfants, vous les avez effectivement expertisés, plusieurs dizaines d'entre eux. Hein. Est-ce qu'on est face à une prise en charge qui est quand même assez nouvelle d'un traumatisme chez l'enfant ? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel traumatisme ?
Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas nouveau, des enfants qui ont connu la guerre, on en a connu, des enfants qui ont connu des violences, des traumatismes, des ruptures, on a l'habitude de s'en occuper en pédopsychiatrie. Ce qui était très nouveau dans cette histoire, c'est l'atmosphère, j'ai envie de vous dire, de peur et de méfiance autour de ces enfants. Comme c'est des enfants de parents djihadistes pour la plupart, eh bien c'est comme si ce djihadisme de leurs parents, ces convictions de leurs parents étaient contagieuses et que ces enfants peut-être allaient comme ça le développer maintenant ou plus tard, que c'était des bombes en puissance, etc., comme on l'a entendu.
Des bombes à retardement, en fait, c'est ce que disait François Molins il y a quelques années, effectivement.
Absolument. Alors que ces enfants, c'est des enfants, encore une fois, traumatisés par la guerre, traumatisés par la perte souvent de leur père, de leurs parents, de leurs frères et sœurs. C'est des enfants qui ne demandent qu'une chose, et c'est ce qu'on a vu avec ces enfants, c'est de pouvoir revivre, se réinsérer et avoir la vie qu'ont tous les enfants ici. Vous savez, les premiers enfants que j'ai connus en 2018, tout ce qu'ils avaient envie de faire, alors bien sûr, ils venaient à leurs expertises, à leurs examens, très gentiment, ils passaient tous les tests qu'on leur demandait, mais dès qu'ils avaient 3 minutes, ils sortaient, ils jouaient au foot, ils rencontraient d'autres enfants, ils avaient envie de rire, ils avaient envie de se réinsérer. Et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'à cette pathologie des traumatismes de guerre, on a rajouté aujourd'hui une pathologie qu'on connaît bien aussi, qui est celle de l'exclusion, de l'enfermement, qui est celle de l'emprisonnement. C'est-à-dire, c'est des enfants qui ont grandi uniquement avec leur mère, collés à leur mère, dans une relation fusionnelle avec leur mère, dans un camp où ils n'avaient pas d'autre possibilité de relations sociales, d'apprentissage, d'école, ce à quoi ont droit tous les autres enfants.
Marie Dauzet, effectivement, Sergei Hefèse rappelait ce terme de bombe à retardement qui avait été utilisé. Est-ce qu'aujourd'hui, la France traite ses enfants comme des victimes ?
Mais François Molins a récemment répété qu'il fallait absolument rapatrier tous ses enfants. Et Boris Cyrulnik a eu l'intelligence d'expliquer. Boris Cyrulnik, qui quand même est un immense pédopsychiatre et qui connaît les camps, c'est le moins qu'on puisse dire, a eu l'intelligence d'expliquer que c'est en les laissant là-bas qu'on fabrique le pire, d'accord ? Donc moi, ce que je veux juste dire, c'est que même l'intitulé de votre émission me pose difficulté. Les enfants de djihadistes rapatriés de Syrie. Non, ce sont des enfants rapatriés de Syrie. Les enfants de djihadistes, il faut que ça s'arrête.
C'était plus les enfants des femmes, effectivement, rapatriés.
Non, mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut arrêter avec les enfants de djihadistes. On a même entendu les enfants du djihad. Non, mais vous imaginez. C'est-à-dire que depuis quand est-ce qu'on colle, on fait coller à la peau d'un enfant le choix de son père ou de sa mère? Est-ce qu'on a parlé des enfants de collaborateurs? Est-ce que quand un père est accusé de vol ou a été condamné pour vol ou pour viol, on appelle un enfant de voleur ou un enfant de violeur? Depuis quand est-ce qu'on fait ça? Et c'est ça la contamination aussi dont parle Serge Hefèse. Ces enfants sont des enfants. Et je crois que François Molins a regretté beaucoup cette phrase. Et je pense que comme on a fait, comme la France a fait, le pire des choix, qui n'était pas un choix humain et responsable, mais un choix même pas politique, politicien, eh bien, elle a nourri cette peur. Et c'est en ça qu'elle est condamnable, vraiment. La réalité, c'est ce que dit Serge Hefèse, la force de résilience d'un enfant, la prise en charge qui existe, et la nécessité de les rapatrier tous et très vite. Parce que moi, j'ai très peur d'une chose, je vais vous dire. Je suis en lien avec des enfants dans les camps. Pourquoi il est parti et pas moi? Pourquoi la France, elle ne m'a pas choisi?
Pourquoi ils m'ont laissé? C'est une question qui existe, c'est vraiment des questions qui se posent là-bas.
Et qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Qu'est-ce que je réponds à cela? Donc, l'hiver, c'est dans quelques semaines. On est à 3, 4, 5 ans dans les camps. Les enfants vont partir leurs copains belges, leurs copains allemands. Aujourd'hui encore, 28 enfants et 28 mères des Pays-Bas ont été rapatriés, sans difficulté aucune. Ces enfants voient les camps se vider et eux rester. La question, c'est pourquoi il en reste 150. 150. Il faut se dépêcher et la France a les moyens de rapatrier très vite, comme tous les autres pays d'ailleurs. Parce que c'est aussi un mensonge d'État que de nous avoir expliqué pendant 4 ans que c'était des opérations militaires tellement compliquées à réaliser. Ah bon ? Mais pas pour la Belgique, pas pour l'Allemagne, pas pour les Pays-Bas. Bref, ça suffit. Je crois que maintenant, les premières opérations de rapatriement se sont déroulées. Il faut accélérer le rythme et il faut surtout qu'il n'y ait plus un seul enfant français dans les camps Roges cet hiver.
Sophie Parmentier.
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Marie Dauzet. En effet, François Molins regrette beaucoup ces paroles qu'il avait prononcées en parlant d'enfants comme des bombes à retardement. Et il dit cet été qu'il faut rapatrier absolument tous ses enfants. Il considère qu'ils subissent, ce sont ses mots, une situation dont ils ne sont pas responsables. Ce que je voudrais dire, c'est que je crois que les images de propagande de Daesh, que tout le monde a vues, qui représentaient les lionceaux du califat, ces enfants qu'on voyait armés, dont un enfant français, sur certaines images, en fait, ont fait peur. Et il ne faut pas oublier que tout ça est dans un contexte où la France a été frappée par les terribles attentats de 2015 et de 2016. Donc, je pense que la peur est née de cette période, de ces images. Mais très clairement, vous avez reparlé tout à l'heure, et Serge Hefèse le disait, le soupçon autour de ces enfants qui font peur. On considère que parce que ses parents, leurs parents ont pu être djihadistes, alors ils risquent de devenir djihadistes, comme si on n'avait pu leur inculquer que cela. Dans le documentaire que j'ai co-réalisé avec Hélène Lamtrong, Daesh, les enfants du soupçon, on voyait très bien cela, cette peur, et il y avait des juges, des enfants, à l'époque c'était les pionniers, les juges de Bobigny, parce qu'à l'époque tous les retours se faisaient en Seine-Saint-Denis, et donc ces juges qui se sont occupés de ces enfants, et qui ont d'ailleurs confié des expertises à Serge Hefèse, en fait, disaient que si certains enfants avaient, si les juges avaient eu la preuve que ces enfants avaient pu combattre dans des camps, porter des armes. Mmh. À partir d'un certain âge, il aurait été possible de poursuivre ces enfants. Ils ne l'ont jamais fait. Ces juges très clairement nous ont dit qu'ils avaient absolument la certitude qu'aucun de ces enfants n'avait été entraîné. Il faut rappeler que tous ces enfants sont très jeunes. La plupart sont nés sur place. En fait, la plupart des Françaises et des Français qui sont partis rejoindre le califat de Daesh en 2014, 2015 et ensuite sont partis avec des enfants très jeunes et ont eu d'autres enfants là-bas. Donc, personne n'a combattu, et en tout cas ces juges des enfants qui sont des spécialistes qui dans ce département de Seine-Saint-Denis avaient l'habitude de voir des délinquants, en fait, de s'occuper aussi d'enfants de délinquants, et donc ils n'avaient jamais vu, comme le disait très bien Marie Dosé, ce rapport entre parce que le père est condamné pour vol ou pour viol, eh bien on a peur que l'enfant devienne voleur ou violeur, et ça, ça a existé en effet avec le terrorisme, à tort, disent les juges qui rappelaient dans notre documentaire, et c'est très important, je pense, de le redire, que ces enfants sont à protéger, comme tous les enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, à leur retour, des juges des enfants qui les protègent et qui les confient maintenant à l'aide sociale à l'enfance. Mais chacun rappelle que ces enfants subissent le choix de leurs parents, mais la justice les considère comme innocents.
Marie-Dosier.
Oui, contre la propagande de Daesh, c'est la réalité qu'aurait dû colporter l'État de droit. La réalité, c'est que plus de 80% de ces enfants, quand ils rentrent dans les camps, ils n'ont pas 6 ans. La réalité, c'est que beaucoup y sont nés. C'est que la grande majorité ont 2 ou 3 ans en arrivant. Et c'est qu'évidemment, aucun de ces enfants n'a jamais combattu. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on n'est pas ancré dans notre état de droit. En réalité, il n'y a que l'état de droit pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas eu cette œuvre de pédagogie qui s'imposait face à la propagande de Daesh ou à la peur des uns et des autres. Il n'y a pas eu cette œuvre de pédagogie portée par un état de droit en disant « Mais attendez, de quoi on parle ? On parle de 8 classes, on parle de 9 classes de maternelle. Allez, 8 classes de maternelle !» Non mais vous vous rendez compte qu'en 2019, il s'agit de 8 classes de maternelle. C'est ça qu'on a laissé pourrir dans des camps. Et c'est là vraiment où la France a été aussi inhumaine qu'irresponsable.
Alors Serge Effès, je voudrais revenir avec vous quand même sur le parcours qui attend ces enfants une fois qu'ils sont rapatriés en France. Ils sont d'abord placés, Sophie Parmentier le disait, à l'aide sociale à l'enfance, puis dans des familles d'accueil avant éventuellement de retrouver des proches, un oncle, une tante, des grands-parents qu'ils pourraient avoir en France. Ce parcours, Serge Effès, en tant que psychiatre et psychanalyste, vous semble adapté ?
Ben, écoutez, il est adapté s'il est rapide. Il ne faut pas qu'il s'éternise. Ce qui s'était passé avec, encore une fois, les premiers enfants qui étaient rentrés, c'est qu'effectivement, les parcours ont été assez exemplaires. C'est-à-dire que tout le monde était très mobilisé, les professionnels avaient été formés, les familles d'accueil avaient été sélectionnées, et les enfants allaient très très rapidement, ils commençaient à passer par une institution, mais dans laquelle ils restaient très peu, quelques jours, pour être directement dirigés vers des familles d'accueil qui, encore une fois, étaient formées spécialement pour les accueillir. Et il y avait des équipes de pédopsychiatrie, de pédiatres, etc., des équipes sociales qui étaient sur les dents, c'est le cas de le dire, pour s'en occuper et pour faire au mieux avec ces enfants. J'espère qu'aujourd'hui, et ensuite, des contacts très rapides étaient pris avec les grands-parents, avec des oncles et des tantes, avec la famille élargie. Moi, j'ai eu l'occasion, pendant mes expertises, de rencontrer ces familles, justement, pour évaluer si c'était des familles qui étaient prêtes à les accueillir et des familles, disons, de qualité suffisante pour pouvoir s'occuper d'un enfant, ce qui a toujours été le cas. Aujourd'hui, j'ai peur que les choses se passent un petit peu plus difficilement. Pourquoi ? Parce que, dans ce que j'entends dire, les tribunaux pour enfants de Bobigny et de Versailles, qui sont très habilités pour s'en occuper, sont saturés, et que beaucoup de ces enfants sont envoyés sur d'autres juridictions qui peut-être connaissent moins ces enfants et ces parcours. J'entends parler, par exemple, de juges d'enfants qui ont peur de maintenir le contact de l'enfant avec sa mère incarcérée. Parfois, la mère incarcérée, elle est très très loin de l'enfant, là où il se trouve, donc c'est très difficile de garder ce qui, pour moi, est le plus important, c'est des visites médiatisées avec l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant garde un contact avec cette mère qui a été son seul partenaire pendant des années. Donc voilà, il faut voir comment, si vous voulez, sur le principe, les choses sont prévues pour être le plus positif possible pour l'enfant, mais on va voir sur le terrain comment ça se passe effectivement.
Marie Dosé, dire aux enfants, ce n'est pas normal ce que tu as vécu, évidemment, c'est terrible, mais en même temps, conserver ce lien quand même avec la mère, c'est ce que...
Ah non, mais il est essentiel, enfin, sinon on va les bousiller, et je mesure le terme. Ce n'est pas un lien fusionnel entre eux et leur mère, c'est plus que ça. C'est 24 heures sur 24, c'est dormir dans la tente, c'est souffrir ensemble, avoir faim ensemble, avoir froid ensemble, avoir chaud ensemble. Donc on ne peut pas couper le lien comme ça. Et moi je constate, et je suis un peu comme Serge Effès, assez inquiète, je constate que sur les derniers retours, les premières visites médiatisée entre la maman et l'enfant arrive trop tard, beaucoup trop tard. Mmh. Et notamment sur les retours du 5 juillet, il y en a très très peu qui ont vu leur maman. On est en train, parce que les lieux de détention sont trop loin du lieu de placement de l'enfant, d'imaginer des visios, des visios avec des enfants qui ont 4 ans et une maman incarcérée, alors que le lien fusionnel a été pendant des mois très très fort.
Mais quels sont les prétextes qu'ils ont donnés pour expliquer ces retards ?
Je vais vous dire. En fait, on a essayé, et Serge Fez a raison de le rappeler, on a essayé de placer les enfants dans des familles d'accueil ou dans des petites structures en dehors des Yvelines et de la Seine-Saint-Denis. Et en réalité, le choix est excellent de les placer dans les départements où vivent les familles d'origine. C'est-à-dire les grands-parents. Si les grands-parents, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, arrivent à habiter en Bretagne, on va essayer de trouver une famille d'accueil, et c'est très bien, à Saint-Brieuc, et un placement à l'aide sociale à l'enfance de Bretagne. Bon, parfait. Mais la maman, elle, c'est compliqué de trouver peut-être une place en détention proche de la Bretagne. Donc elle va être à des centaines de kilomètres. Comment est-ce qu'on donne les moyens aux éducateurs de se rendre régulièrement dans les maisons d'arrêt pour assurer les visites médiatisées avec la maman ? Tout ça est compliqué, hein ? Tout ça est compliqué. Il faut donner les moyens aux éducateurs de bien travailler, parce qu'ils veulent bien travailler, mais je sais aussi que dans le secteur de la protection de l'enfance, Emmanuel Macron nous avait dit que le prochain quinquennat sera celui de la protection de l'enfance, ben, on attend tous les moyens, et qu'il faut vraiment mettre les moyens pour que le lien avec la mère et les enfants perdure. Et dernière petite remarque, parce que ça c'est très important, qu'on n'attende pas des mois et des mois avant que ces enfants rencontrent leur famille. Parce que ces enfants dans les camps, pour eux la France, c'est papy, c'est mamie, c'est tonton, c'est tata. Et donc il faut qu'ils entendent leur voix comme ils ont pu entendre leur voix au téléphone, il faut qu'ils les rencontrent comme ils ont pu les rencontrer par l'intermédiaire du téléphone dans les camps, il faut qu'on leur dise ils existent, ils sont là, regarde. Même si c'est dans le cadre de visites médiatisées, mais que les rencontres avec les familles se fassent beaucoup plus rapidement qu'actuellement.
Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous avez filmé dans votre documentaire, Sophie Parmentier, ces échanges téléphoniques entre les familles de ces enfants qui sont en France et ces enfants depuis les camps. C'est quelque chose qui a maintenu un lien par téléphone.
Bien sûr, il faut rappeler que la plupart des familles et beaucoup de grands-parents en fait, qui sont dans ce collectif Famille Unie ont vu partir leurs enfants en Syrie ou en Irak. Ils étaient désespérés. Ils auraient aimé, bien sûr, qu'ils rentrent beaucoup plus vite. Parfois, ils ont connu un petit enfant, deux petits enfants, mais la plupart des petits enfants sont nés là-bas. Et ces grands-parents qui se battent, en fait, veulent connaître leurs petits enfants. Il y a l'exemple, en effet, dans notre documentaire, de grands-parents qui ont quatre petits-fils dans le camp de Roge. L'un est né là-bas et ils ont connu leur premier petit-fils avant que les enfants partent en Syrie. Et ce petit garçon a son bureau chez ses grands-parents, les crayons de couleur, il y a des tas de livres en fait. Mmh. Ce sont des gens très instruits qui veulent montrer autre chose. C'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi cette peur assez inexplicable que parce que à un moment donné, des jeunes gens ont fait le choix de partir en Syrie, eh bien c'est comme si c'était irréversible en fait. Alors que la justice aujourd'hui, et tout à l'heure Marie Dosé parlait du coordonnateur des juges antiterroristes, David Depasse, qui s'est prononcé pour le retour et que tous les djihadistes soient jugés en France. Bien sûr qu'il n'y a rien d'irréversible, qu'il faut que les adultes soient jugés pour ce qu'ils ont fait et que les enfants soient considérés comme des enfants, qu'ils retournent à l'école, qu'ils soient entourés de professionnels. Et je crois que tous les professionnels disent que évidemment, il ne faut pas couper le lien avec la mère. Ça a été important de le dire, ça aussi. Les visites médiatisées, ça veut dire qu'il y a autour des psychologues. Et bien sûr, ce retour vers des grands-parents, vers des oncles, des tantes qui n'ont jamais cautionné Daesh et qui n'ont jamais cautionné le choix des enfants qui sont partis et qui, eux aussi, disent qu'il faut qu'ils soient jugés pour cela, mais pas que les petits-enfants, ces enfants innocents, soient condamnés pour les choix faits par leurs parents, en fait.
Des familles qui sont prêtes et qui les attendent effectivement avec une impatience évidente. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Merci Marie Dosé, avocate au barreau de Paris et représentante du collectif, avocate pour ce collectif Famille Unie. Merci à Sophie Parmentier. Je rappelle le titre de votre documentaire, Daesh, les enfants du soupçon, avec Hélène Lamtran, qui sera diffusé le 19 novembre sur LCP. J'invite évidemment tous nos auditeurs à le regarder. Il est passionnant. Et merci à Serge Fès, psychiatre et psychanalyste. Merci à tous les trois. Très belle soirée à vous sur RFI.